Bien, bonjour tout le monde, c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Et ce matin, on va regarder dans Actes chapitre 15 des problèmes dans l'Église. Alors, eux, ils se réunissent et ils chicanent. Et ils ont des débats, des discussions vives. Et c'est ce qu'on va faire ce matin dans Actes chapitre 15. Tourne avec moi Actes 15 et on va lire 35 versets. Actes chapitre 15, et je vais lire 35 versets. Alors, vous êtes tous avec moi dans votre Bible, j'espère. « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté des regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et après, et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. » afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis que l'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jules appelé Barsabbas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres et les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner chez eux, vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. 35 versets qui vont nous apprendre beaucoup de choses. Alors, Barnabas et Paul sont à Antioche. Antioche, une grande ville, 500 000 habitants. Elle porte des noms aussi particuliers. En fouillant un petit peu, ça a l'air que dans ce temps-là, on appelait Antioche, Antioche l'Admirable, la reine de l'Orient, où on lui donnait même le nom de la troisième capitale de l'Empire romain. C'est pour vous dire l'importance de la ville d'Antioche. C'est une métropole importante de la Syrie avec ses 500 000 habitants. Elle comprenait passablement de Juifs. Et elle comprenait aussi des chrétiens juifs venus de Jérusalem, qui ont fui Jérusalem après la persécution d'Étienne, suite au martyr d'Étienne. Donc, c'est intéressant de voir comme quoi qu'il y a une population assez variée à Antioche. Barnabas y fut envoyé par l'Église de Jérusalem. Quand Jérusalem apprit qu'il y avait des conversions à Antioche, probablement et sûrement suite au témoignage des chrétiens juifs de Jérusalem qui étaient rendus à Antioche, l'Église de Jérusalem envoie Barnabas à l'Église de Jérusalem. Quelque temps après, Barnabas quitte Antioche, va chercher Paul et retourne à Antioche. Et c'est là qu'on se trouve un peu par la suite. Même, il y a une bonne entente, on voit qu'il y a une ferme collaboration entre les églises de Jérusalem à Antioche. Alors, c'est quand même pas à la porte, OK? Antioche, Jérusalem, c'est plus ou moins 400 kilomètres. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, c'est rien, 400 kilomètres. Mais dans ce temps-là, les 400 kilomètres, on les faisait à pied. Donc, c'est totalement différent d'aujourd'hui, où on 400 kilomètres, c'est à 4 heures de Montréal, puis il n'y a rien là, c'est pas loin. Mais à pied, c'est des jours et des jours de marche, plus ou moins, tenez-vous bien, un mois de marche pour se rendre entre Antioche et Jérusalem. Mais là, à Antioche, ils ont appris qu'à Jérusalem, il va y avoir des problèmes, il va y avoir une famine. Alors, ils ont fait une collecte et ils ont envoyé, selon la collecte, à Jérusalem pour les frères et sœurs qui passaient par la famine. Donc, il y a une étroite relation entre les deux églises. Là, on arrive à Antioche, quand on commence le chapitre 15, et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors, tout de suite, on voit que quelques hommes, quelques Juifs, venant de la Judée, enseignent que pour être sauvé, il faut observer les rites de Moïse, et en particulier la circoncision qui est en question à ce moment-là. Déjà depuis le début de l'Église, on est mis en garde. Pierre nous met en garde dans 2 Pierre 2, 1, vous irez le voir. Mais j'aimerais qu'on tourne dans Acte 20, versets 29 et 30. Acte 20, versets 29 et 30. Et c'est Paul qui parle là. Et il dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, verset 1, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc, on est mis en garde déjà comme quoi qu'il y aura des loups, qu'il y aura des faux prophètes, qu'il y aura des faux frères qui vont enseigner des doctrines pernicieuses. Et c'est là qu'on fait face avec ces hommes de Judée qui enseignent la nécessité d'être circoncis. Intéressant de voir que dans ce verset, c'est pas marqué quelques frères de Judée. C'est marqué quelques hommes de Judée. Ils sèment le trouble parmi les non-juifs, parmi les païens et les juifs. C'est intéressant qu'on souligne qu'ils viennent de Judée. Pourquoi on souligne qu'ils viennent de Judée? Imaginez-vous, vous êtes à Antioche, à 400 kilomètres de là, en Judée, d'où vient Jésus-Christ, la grande église de Jérusalem, tout ça. Puis là, il y a des hommes qui se disent, entre guillemets, chrétiens, et qui viennent enseigner à l'église en région, à Antioche. Donc, ces gens-là sont considérés par les gens de l'église d'Antioche. C'est pour ça qu'ils ont la permission de parler et qu'ils enseignaient les frères. Mais ils ne sont pas marqués quelques frères. Et si on tourne ensemble dans Galates chapitre 2, vous allez voir comment que l'auteur de l'Épître aux Galates, okay, Galates, Éphésiens, chapitre 2, comment qu'il les appelle, hein? Vive discussion, Galates, chapitre 2. On pourrait tout lire le chapitre 2, mais on va essayer de se limiter à quelques versets. Versets 5 et 6. Ceux qui sont les plus considérés, okay, Galates, chapitre 2, versets 5 et 6, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. C'est le même, on parle du même événement, là, hein? Afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela n'importe pas, Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Et on peut continuer. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi, c'est Paul qui parle, l'apôtre des païens, etc., etc. Donc, on voit comme quoi qu'il n'y a pas de limite, OK, dans ces discussions, on voit que c'est difficile. Au verset 9, on voit qu'il y a une main d'association. OK, au verset 3 et 4, on va lire les versets 3 et 4 du chapitre 2 de Galates, « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi vous pour épier la liberté que nous avons en Jésus. » Le nom que Paul donne à ces quelques hommes venus de la Judée, il les appelle des faux frères. Frères, des faux frères, il en existe depuis toujours. Des enseignants de fausses doctrines, il en existe depuis toujours. On va développer l'histoire dans les quelques minutes qui suivent. Mais aujourd'hui, en ce moment, même si c'est un privilège que nous avons avec Internet, avec YouTube, avec Zoom, etc., attention, il y a des faux frères sur le net. Merci, chers frères. Attention à ce que nous regardons. Attention à ce que nous écoutons. Il y a de fausses doctrines qui sont répandues et qui utilisent des versets bibliques tirés hors contexte, mal enseignés, sans enseigner le propos complet que le passage, mais juste tirés comme cela. Attention. Alors, qu'est-ce qu'ils enseignent? Et ils enseignent que si vous n'êtes pas circoncis, c'est exactement les mots, vous ne pouvez pas être sauvés. Contrairement à ce que la parole de Dieu nous enseigne, que nous sommes sauvés par pure grâce, OK, on va regarder une couple de versets tout à l'heure, par la foi. Rien d'autre. Vous savez, quand ils enseignent ça, comme quoi que on ne peut pas être sauvé si on n'est pas circoncis, ça veut dire que le sacrifice de Jésus à la croix, sa résurrection miraculeuse, n'est pas suffisante pour nous sauver. Il faut aussi que je me fasse circoncire. Je ne sais pas si ça nous montre un peu la stupidité du raisonnement aussi. Puis on va le développer. Alors, avec Barnabas et Paul, imaginez, quand vous lisez les épîtres de Paul, vous pouvez comprendre que c'est sûr qu'il va y avoir un débat houleux entre Barnabas, Paul et ces hommes-là. Vive discussion dans la parole, dans le sommeur, il parle d'un conflit aussi. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Barnabas et Paul et quelques-uns des leurs montent à Jérusalem vers les apôtres, vers les anciens, vers la grande église de Jérusalem. Premier congrès de l'Association des églises baptistes de ce coin-là. Je ne sais pas si ça nous donne une idée, l'association. Hein? Il y a une association entre les deux et on a besoin de se soutenir les uns les autres. En même temps, c'est quand Paul et Barnabas descendent, ils font un rapport. Ils vont faire un rapport de leur mission. En même temps, ils vont avoir une réunion, une fin de semaine missionnaire, conférence missionnaire à l'église de Jérusalem. Alors, quelques-uns montent avec Paul et Barnabas et ils vont au premier congrès et ils vont aller discuter de la question importante et doctrinale qui est en question là. Est-ce nécessaire d'observer les rites de Moïse? Imaginez-vous ce que ça provoque dans l'Église à Antioche. C'est sûr que ça crée une division dans l'Église. Ça crée au moins une division entre les non-juifs et les juifs. Ça crée une insécurité des non-juifs qui croient être sauvés par grâce puis par la foi. Puis là, on leur dit, non, il vous manque la loi, c'est ça, etc. Regardez le climat d'insécurité dans l'Église au point qu'on envoie des délégués à Jérusalem pour parler de la situation. Donc, ils partent pour Jérusalem, 400 kilomètres aller, 400 kilomètres retour. La réponse n'arrivera pas demain matin. On n'a pas Internet, on n'a pas Facebook, etc. On n'a pas le téléphone, ils n'ont pas des avions. Donc, en chemin, à pied, ils partent. Ils traversent la Phénicie, ils traversent la Samarie. Et au verset 3, verset 3 du chapitre 4, « Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères en chemin. » Donc, c'est clair que Paul et Barnabas n'ont pas tout à fait la même opinion comme quoi qu'il faut ramener les rites de Moïse pour être sauvés. Grande joie des frères de ce que des non-juifs, des païens, sont convertis. Arrivés à Jérusalem, il y a le rapport des missions. Ils font le rapport de leur mission dans la région d'Antioche. Tout ce que le Seigneur a fait avec eux, c'est exactement les mots qui sont écrits. Alors, au verset 5, « Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. » Alors là, ici, ce n'est pas le même groupe que le groupe du verset 1, OK? C'est des groupes différents. Le verset 1, on dit « quelques hommes de Judée », tandis qu'ici, il parle de quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait faire circoncire les païens. Donc, on voit que déjà, la mauvaise graine qui est montée à Antioche était dans l'Église aussi, là, avec quelques chrétiens qui avait écouté cette affaire. Mais c'est sûr que le parti des pharisiens tombe sur un os, parce que d'où vient Paul? Il vient du parti des pharisiens. Et s'il y a quelqu'un qui peut parler à des pharisiens, c'est Paul. Alors, ces hommes-là utilisent le même langage. Ils exigent l'observation de la loi de Moïse. Groupe différent. C'est une hérésie qu'on voit, la loi versus la grâce. OK? La grâce plus les œuvres de la loi. C'est ce qu'eux enseignent, c'est ce qu'eux disent qui est nécessaire pour être sauvés. Alors, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire, verset 6. C'est tout ce qui est écrit. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. On n'a pas de détails de cette rencontre. On n'a pas de détails de la rencontre des apôtres et des anciens avec Paul et Barnabas pour examiner cette affaire. Sauf que une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, est-ce que c'est à l'Église qu'il parle ou est-ce que c'est au groupe de tout le monde ensemble? C'est pas trop clair. Certains commentaires disent que c'est à l'Église complète qui s'adresse, Pierre. D'autres commentaires disent que c'est aux apôtres et aux anciens et Barnabas et Saul. Donc, la raison pourquoi moi je penserais qu'il s'adresse directement à l'Église, qui inclut le groupe des pharisiens qui ont cru, là, parce que le verset 10 dit « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous, Dieu, en mettant sur le joug des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Verset 10. Donc, il s'adresse tout à l'Église de Jérusalem avec ce groupe dissident qui veulent amener une doctrine différente. Quiconque qui croit à un quelconque cérémonial ou rite qu'on ajouterait au salut, nie la vérité de la grâce et de la foi. Romains 3, 28. Romains, tournez avec moi dans Romains chapitre 3, verset 28. Pour commencer avec le verset 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Et on peut même aller dans Galates 2, verset 16, un petit peu plus loin. Galates, chapitre 2, verset 16, qui nous dit, verset 15, comme ça on lit toute l'idée, « Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » C'est ce qu'il dit dans chapitre 15 quand il parle comme quoi qu'on peut de pas mettre un joug sur les frères d'Antioche. Un joug que même nous n'avons pu porter. Hein, au verset, OK, verset 10, hein. Ça qui dit maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant un joug sur le cou des disciples, un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu supporter ou pu porter. La loi, on essaie de la suivre, mais il faut suivre toute la loi. Dès qu'un maillon saute, ben, on est déconnecté. On ne peut pas observer toute la loi. C'est pour ça que la loi seule ne peut sauver, tandis qu'on est sauvé et justifié par la foi. Il y a le discours de Pierre. Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant un joug sous vos pères? Nous sommes sauvés par la grâce. Ça, c'est le verset 10. Un petit peu plus loin, après, on a le discours qui suit de Paul et Barnabas, qui fait des rapports sur la conversion des non-juifs. Après, Jacques prend la parole. Verset 13. Jacques prend la parole. Intéressant, qui est Jacques? Ben, Jacques est un des anciens, un des pasteurs, voire le pasteur principal de l'Église de Jérusalem, et il parle. Et il parle de... Il fait un petit peu un cours historique de comment Pierre, aussi, qui est appelé Simon, comment il a eu des contacts, puis que des âmes païennes, des non-juifs sont venus à Christ. Et puis là, ils ont décidé d'envoyer Barnabas et Saul, ainsi de suite. Et là, au verset 22, on arrive à la conclusion. Et là, ils décident d'envoyer une lettre, verset 22. OK? « Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, Silas, homme considéré entre les frères, et ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Vous rendez-vous compte la dynamite qu'il y a dans cette lettre pour l'Église de Antioche et pour les hommes de Judée qui ont décidé d'enseigner une fausse doctrine. Verset 24, voici la lettre. « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Quand le Saint-Esprit parle, Dieu parle. Et là, c'est non seulement il paraît bon au Saint-Esprit, mais à toute l'Église, les témoins qui sont là, d'envoyer cette lettre, de ne vous imposer aucune autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. La lettre est envoyée, et il parut bon au Saint-Esprit et à nous. La grâce et la foi seule. Sauvé par grâce, par le moyen de la foi, on pourrait lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Et on voit que dans la suite, les frères, verset 31, après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Ensuite, ils sont encouragés par Jude et Silas. Ils sont enseignés par Barnabas et Paul. Imaginez-vous le fardeau qui est enlevé sur les épaules des non-juifs, qui pendant tout ce temps qui attendaient la réponse des anciens et des apôtres de Jérusalem, attendaient pour savoir s'ils étaient sauvés par grâce, par la foi, ou s'ils n'étaient pas sauvés parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Vous comprenez, là? L'importance de ce document du chapitre 15 des Actes des apôtres est super important. On affirme que la grâce et la foi ont préséance sur la loi. Qu'on peut être sauvé, qu'on soit juif ou non-juif, québécois, et là je vais faire le tour de quelques-uns qui sont ici, français, même les péruviens. Comprenez-vous? Tous, on peut être sauvé par grâce, par pure grâce, par le moyen de la foi. Frères et sœurs, as-tu compris cela? Si tu n'as pas compris, est-ce que tu aimerais comprendre que Dieu, par amour pour toi, par amour pour moi, a envoyé son Fils pour mourir sur la croix, pour prendre ta place, ma place, pour prendre ma condamnation, ta condamnation? Parce que la condamnation du péché, c'est la mort, afin que nous, en tournant les yeux vers Jésus-Christ, on puisse être sauvés, pardonnés de tous nos péchés, comme celui qu'on appelle le bon larron, quoiqu'il n'est pas plus bon que les autres, là, que l'autre, mais qui, lui, a reconnu la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus l'a enlevé de la croix? Non, il est mort. Il est mort sur la croix. Mais Jésus lui a dit, « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. » La foi, seulement la foi. Dans ce passage, on aurait pu étudier pourquoi ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, etc. On aurait pu regarder ça, mais le sujet principal de tout ce passage, c'est l'affirmation que nous sommes sauvés par pure grâce, par le moyen de la foi. Que le Seigneur nous donne d'être fidèles à cette doctrine, à ce salut, par grâce et par la foi. Amen.